Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Nostalgie en série, épisode spécial aujourd'hui. Jeff Ouellette au micro, je suis accompagné de Sylvain Démenti, mon fidèle ami. Comment tu vas Sylvain?
Moi je vais bien, mais la raison pour laquelle on fait cet épisode spécial me rend bien triste.
Mm-hmm. Épisode un peu triste et mélancolique, mais je veux le voir aussi comme un épisode célébration.
Ouais.
La plupart des gens sont probablement au courant à cause des médias sociaux et tout. Hayden Panettiere est décédé le 16 août 2026 et on était très attristés d'apprendre ça. Actrice depuis longue date, là, je veux dire, elle a un bon carnet de voyage, je vous dirais. Là. Et c'est ça. Elle a fait beaucoup de télé, elle a fait du cinéma et tout. Une actrice qu'on respectait beaucoup, qu'on aimait beaucoup personnellement les deux. On s'est dit pourquoi pas faire déjà notre premier épisode spécial pour la célébrer et célébrer sa carrière. Donc, on va déroger un peu le concept initial, si on veut, pour aller s'immiscer dans les séries Heroes et Nashville, deux des séries qui l'ont fait connaître et qui l'ont amené aussi à un statut d'actrice célèbre et surtout adulée par l'auditoire aussi. Nashville, qui a eu, elle a eu deux nominations aux Golden Globes, pardon, et Heroes qui l'a pratiquement lancé, mais elle faisait de la télé depuis l'âge d'un an. Là, je veux dire, tu sais, elle a fait des publicités, des shows américains, là, One Life to Live. Je pense qu'il y a, j'ai regardé ça, puis ça a 11 100 épisodes.
Oui, c'est un soap, là.
C'est ça, ça roule depuis les années 60. Là, j'étais quand même assez surpris d'aller voir ça. Puis comme trivia, je trouvais intéressant. Mais elle a fait du cinéma aussi. Entre autres, personnellement, on est amateurs d'horreur les deux. Là, je veux dire, c'est pratiquement pas une cachette, ça. Là. Et à partir de Scream 4 de Wes Craven, elle est introduite dans le personnage de Kirby. Et personnage vraiment, vraiment cool là, là-dedans, amatrice de films d'horreur elle-même et tout. Puis elle va revenir dans Scream 6 aussi. Mm-hmm. Écoute, c'est quasiment un spoiler pour les gens qui ne sont pas rendus à Scream 6, mais si vous n'êtes pas rendus au sixième chapitre de Scream, qu'est-ce que vous faites? Le 7 est déjà out. Fait que, ouais. Hayden Panettiere, écoute, aujourd'hui, on a choisi Nashville et Heroes. Je vais parler de Heroes, tu vas parler de Nashville. Mais je voulais aussi mentionner que son frère était acteur aussi, puis il est décédé il y a 3 ans, en 2023. Donc, assez tragique comme sort que cette petite famille a vécu dans les dernières années. Là. Et je veux dire, on peut parler de toute sa carrière, mais on va rentrer vraiment plus dans le vif du sujet et de parler de ces deux séries spécialement.
Moi, avant qu'on se lance dans ces deux séries-là, j'aimerais juste souligner un fait qu'elle a joué dans une série qui est très nostalgique pour moi.
Okay.
On ne va pas vraiment parler ce soir, mais elle a joué dans Ally McBeal.
Mm-hmm.
Et moi, c'est très nostalgique pour moi parce que quand c'est arrivé, là, ce personnage-là d'Ally McBeal qui est complètement... Qui a son univers, qui voit des choses, qui était vraiment unique. Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, donc j'ai beaucoup suivi cette série-là jusqu'à, malheureusement, la dernière saison. Puis c'est pour ça qu'on n'en parlera pas vraiment ce soir, parce que Hayden Panettiere, elle arrive dans la dernière saison, à la toute fin. Là, je vais faire un spoiler, là, je suis désolé, mais c'est... Elle cogne à la porte d'Ally McBeal et « Surprise, t'es ma maman parce qu'il y a 11 ans, t'as donné t'as fait un don d'ovaire, puis ça m'a créé, puis c'est ça. » Donc, c'est une histoire complètement tirée par les cheveux. Là. Mais rendu là dans la série, là, il n'y avait plus grand connexion avec la réalité, je vous dis. Ally McBeal. Oui. Malheureusement, c'est un peu pour ça qu'on n'a pas pris cette série-là parce que, c'est ça, elle arrive tard dans la série, puis c'est pas vraiment représentatif. On va parler de deux épisodes pilotes.
Mm-hmm. Puis aussi, mentionné avant de tomber dans ces deux épisodes-là, Hayden Panettiere était aussi auteur, compositrice, interprète. Mm-hmm. Et elle a, tout le long de Nashville, elle chantait les chansons pour la série. Elle a aussi lancé quelques singles et personnels aussi. Donc, elle faisait de la musique. Okay. C'est ce qui est intéressant, je pense. Ça, on va en reparler, là, je veux dire. Mm-hmm. Mais c'est une des facettes intéressantes de Nashville, c'est que Hayden Panettiere était vraiment musicienne et elle chante tout le matériel qui est dans la série. Là. Fait que, mmh. Ça, c'est cool aussi. Là, je veux dire, une actrice qui a plusieurs cordes à son arc. Là. Heroes, Primetime Show, 2006 à 2010. Ça l'a quand même rentré fort en 2006. Là. Tout le monde parlait de ce show-là. Écoute, c'était...
Le nouveau Lost.
Un peu, hein, oui. Quand mmh. même. Lost, ça avait vraiment fait un tabac aussi, la saison 1, je m'en souviens. Tu sais. Puis mm-hmm. c'était dans le temps, mettons, sur les tablettes des clubs vidéo, le Vidéotron, tout ça, il y avait plein de copies de ces séries-là. Heroes, petite anecdote personnelle avant de commencer, j'ai écouté, je me souviens plus si c'est l'entièreté de la saison 1 ou juste une partie dans un cours d'anglais à l'école, yeah. parce qu'on avait eu un remplaçant comme prof, pendant une durée assez longue, là, quand même. C'était pas l'histoire de 2-3 semaines. Puis okay. ce remplaçant-là manquait de matériel, probablement, parce qu'il avait amené les coffrets de la saison 1, puis il nous a fait écouter ça. Puis, c'était probablement secondaire 4, si je me souviens bien, là, mais c'était vraiment le fun, parce que au secondaire, personnellement, j'étais pas encore très top en anglais. Là. Je veux dire, je viens du lac Saint-Jean, fait que mes racines sont pas ancrées dans l'anglais de cours. Là. Tu sais, j'avais pas d'aide à la maison tant que ça, puis j'étais un peu laissé à moi-même. Fait que d'écouter un show dans un cours avec des amis qui parlaient plus anglais, mais ça m'a quand même aidé à pratiquer beaucoup l'écoute et tout, et le comprendre cette langue-là, tu sais, fait que, puis de découvrir un show aussi le fun, surtout à cet âge-là, Heroes, là, je veux dire, là, super-héros, un peu style comic book, tu sais, c'était quand même intéressant à tomber là-dedans, mais je dois aussi mentionner que c'est la dernière fois que j'ai fait la run de Heroes, dans le sens où j'ai vu la saison 1, j'avais vu la saison 2 par la suite, et après, j'ai pas continué. Fait que là, aujourd'hui, pour le bien de l'épisode, on a revisionné les deux pilotes, comme Sylvain, tu l'as mentionné. Donc, on va couvrir principalement l'intro de la série. Donc, le pilote qui s'appelle Genesis, qui va mettre un peu comme tout pilote, ça met un peu les personnages en place. Pas tous les personnages, mais on va avoir 6 personnages principaux qui nous sont introduits sur la gang qui vont vraiment être là pour l'entièreté de la run du show. Et principalement, le personnage de Peter Petrelli et de son frère, Nathan Petrelli, qui vont être dans les principaux récurrents, qui sont joués par Milo Ventimiglia, qui a entre autres joué dans Requiem for a Dream, qui est une...
Ah ouais.
Non, mais je pense que je le mélange avec le chanteur de 30 Seconds to Mars.
C'est Jared Leto.
Oui, désolé.
Non, lui, il jouait le fils de Rocky.
Ouais, t'as raison. Puis là, j'allais dire, on coupera ça au montage, mais on fait pas de montage. Fait qu'écoute, ça arrive d'avoir des bulles au cerveau. C'est Adrian Padar qui joue son frère. Il y a Hayden Panettiere qui joue Claire Bennett. Il y a aussi Masi Oka, un personnage que j'aime beaucoup dans cette série-là, qui joue Hiro Nakamura. Puis là, sans vouloir faire de mauvaises blagues un peu déplacées, mais j'ai regardé dans mes notes, puis j'ai écrit Miso Oka. Je sais que c'est Masi Oka, mais bon, pas de joke de soupe miso en ce moment, là, qui veut. C'est plus une erreur d'écriture. Nikki Sanders, jouée par Ali Larter, qui va... Oui. Excellente actrice. Écoute, il y a quand même...
Elle aussi, c'est très nostalgique pour moi, là, parce que je ne l'ai pas vue depuis, je ne sais pas combien de temps. Il me semble qu'elle était super in au début des années 2000. Elle était partout.
Ouais. Cherchait dans quoi qu'elle jouait. Puis c'est elle qui joue dans Final Destination 1 et 2. Donc, deux quand même bons bangers du début 2000 côté horreur, là, je veux dire. Quand j'ai revisionné le pilote, je me disais, je sais que je l'ai vu à quelque part. Probablement dans d'autres choses, mais principalement Final Destination, ça a été quand même un de mes... Tu sais, ado, là, un des bons films d'horreur que j'ai visionné plusieurs fois. Là. Fait que, à mentionner. Puis sinon, il va y avoir quelques autres personnages, mais qui sont moins développés que ceux que j'ai mentionnés. Pour commencer, je vais parler de Hayden Panettiere, son personnage Claire Bennett, qui fait de la régénération cellulaire. Elle se fait pas mal, dans le fond. Elle guérit tout seul. C'est ça qu'elle fait. Puis la scène d'introduction est quand même cool parce qu'elle est avec un ami, petite caméra à l'épaule. Ils vont la filmer en train de jumper en bas d'une espèce de building assez haut. Elle tombe face première dans le sable, puis elle s'est pas faite mal. Pour un peu prouver son point, parce que après, elle va mentionner qu'elle s'est brisé tous les os du corps. Il n'y a jamais quelque chose qui va lui arriver qui va rester, tu sais, des marques ou quoi que ce soit, des cicatrices. Fait qu'elle a... Elle veut chercher un peu la raison du pourquoi de tout ça. Tu sais. Puis ça va être assez récurrent avec chacun des personnages. Ils ont tous un peu un pouvoir spécial. Puis il y en a quelques-uns là-dedans qui vont chercher des réponses à tout ça, dont le personnage justement de Peter Petrelli, Milo Ventimiglia. Non, dans Requiem for a Dream. c'est ça, lui, il rêve qu'il vole dans le fond. Puis des fois, son frère dans ses rêves, puis c'est un rêve récurrent. Et il va finir par pratiquement être convaincu qu'il peut voler. Tu sais. Son frère, lui, qui est dans la politique, qui n'a pas le temps d'entendre ça, qui est débordé par les événements. Sa mère, elle shoplift, elle fait du vol à l'étalage. Je veux dire, il a pas à gérer son frère qui lui dit dans ses rêves qu'il veut voler. Tu sais. Mais on va voir qu'au courant de l'épisode, Peter, il est convaincu, fait qu'il va essayer de voler. Il y a aussi le personnage de Masioka, dans le fond, Hiro, qui lui est convaincu qu'il peut s'amuser avec l'espace-temps, dans le fond, se téléporter, faire avancer le temps, reculer le temps et tout. Puis il y a un charme vraiment, vraiment fort, cet acteur-là. Comment qu'il joue le personnage? Moi, j'adore son jeu. Espèce de.
Oh, on dit qu'il m'a tapé ses nerfs. Je m'excuse, là. Je suis pas d'accord. Moi, il m'a gossé, là.
Ah gars, ouais?
Mais c'est parce que si ce rôle-là était donné à un enfant, je comprendrais.
Mm-hmm.
Mais là, c'est un adulte qui agit beaucoup trop pour comme un enfant. Je sais pas, ça m'a vraiment gossé. Puis tu sais, je trouve ça un peu stéréotypé que la personne qui est bizarre et enfantine, c'est le seul personnage asiatique du cast principal. Mm. Genre, mais autre ça, c'est pas mon énergie. Je m'excuse.
Ah, je comprends. Mais... C'est intéressant que tu amènes ça parce que moi, mettons, ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est. Il y a énormément de références qu'il mentionne par rapport au comic book, au manga. Puis, tu sais, le côté un peu enfantin, c'est quelqu'un qui n'a jamais vieilli, qui est resté dans ces genres de hobbies, de kid. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ils ont une discussion, lui puis son ami est comme, c'est pas, il y a personne qui peut bender l'espace-temps, puis il y a personne qui peut se téléporter. Là. Pourquoi tu veux pas juste être quelqu'un de normal? Puis, Hiro, il dit, mais c'est parce que je veux pas être normal. Tu sais, je fais le choix de pas être normal. Puis, il dit, dans tel BD de X-Men, whatever, numéro 143, il y a tel personnage qui va se téléporter ou quelque chose de même. Mais comme la référence, le geekiness de cette référence-là, essaie de, sans trop vouloir le mettre de l'avant, mais ça confirme un peu son comportement un peu, jeuneau, je pense. Puis ça back pour moi le côté très, très enfantin du personnage. Son jeu est très grossier. Là,
ouais. Mais tu sais, en même temps, là, j'ai dit ça, puis je ne veux pas trop spoiler, parce que moi aussi, j'ai vu la première saison, je ne veux pas trop spoiler, mais dans la première saison, on se rend compte éventuellement que il voyage un peu dans le temps. Là. Il ne fait pas juste stopper le temps, il peut voyager un peu dans le temps. Puis ben là, je tentais de me demander si finalement, peut-être qu'éventuellement, on n'apprend pas que c'est effectivement un enfant dans un corps d'adulte.
Ça pourrait être une hypothèse, c'est intéressant.
Enfin, je vais lui donner un passe-droit, là, mais n'empêche qu'il gosse.
Ouais. Ben, c'est, ouais, il y a une énergie, en tout cas, assez particulière, là. Il y a aussi le personnage de Nikki Sanders qui, elle, est un petit peu dans la merde. Hein. Elle doit 30 000 $, elle est poursuivie. Je veux dire, elle fait un peu de la soft porn sur Internet, là, des vidéos pour des gens qui paient. Puis je me disais, c'est pas tant cher payé. Puis on remonte en 2006, puis au début d'Internet, puis je me dis, dans le fond, c'était quand même un peu cher payé. Inflation et demi. Ouais. Ben, 35$ le 20 minutes. Mais bon, pas, je veux pas faire de comparaison avec aujourd'hui. C'est pas ça le point, là, je veux dire. Je faisais juste me poser la question. Je me suis dit, ouais, Colin, c'est à doué 30 000. Faut qu'elle en fasse des 20 minutes, là. Mais bon, on va arrêter de niaiser là-dessus. Elle, il y a quelqu'un qui est convaincu qu'il y a quelqu'un qui la suit, qui est une genre d'entité qui est qu'elle ne voit pas, mais qui est toujours auprès d'elle. Dans le miroir, elle va avoir des reflets et tout. Puis éventuellement, dans l'émission, tu sais, elle se fait enlever à cause qu'elle doit énormément d'argent puis tout. Fait que des gens de mobsters, là, des gens de la mafia puis tout. Puis elle va avoir une espèce de blackout, puis elle va se réveiller, puis oui, tout le monde est mort. Puis elle ne sait pas si c'est elle ou si, tu sais, il y a comme une espèce de moment où ce qu'elle voit son reflet dans le miroir, puis son reflet lui fait signe de pas dire quoi que ce soit, tu sais. Fait qu'il y a une genre d'entité qui est dessus, ça fait-tu partie d'elle-même ou non, on le sait pas encore, mais c'est quand, c'est, pour moi, c'est un des scènes qui est quand même très forte dans le pilote.
Oui, c'est un personnage très intriguant, là.
Mm-hmm. Ouais. Puis je me souviens que je l'aimais énormément au courant de la saison, mais c'est tellement flou ce qui se passe par la suite que je ne veux pas trop m'aventurer puis dire des niaiseries au travers de ça. Mais dans cet épisode-ci, je trouve que c'est quand même un des personnages les plus développés avec un backstory le fun. Tu sais.
Mm-hmm.
Au travers de ça, il va y avoir aussi le personnage de Mohinder, qui est chauffeur de taxi, qui est aussi en train d'écrire une thèse sur son père qui va éventuellement mourir et qui, on ne sait pas trop, puis en chauffant le taxi, il fait de la philosophie avec ceux qui vont porter du point A au point B. T'sais, on n'en sait pas trop, mais on est au courant que son père travaillait sur quelque chose d'assez gros puis qui est un peu poursuivi lui aussi, t'sais. Et pour terminer, deux autres personnages principaux, il y a Simone puis Isaac qui vont être des lovers. Et Isaac, lui, est un peu... c'est un gars qui consomme. Quand il est en consommation, il peint des trucs qui vont éventuellement arriver. Est-ce qu'il peint le futur ou est-ce qu'il cause les dommages et les tragédies dans le futur? Comme à un moment donné, il va peindre justement un autobus en feu, un genre d'attentat suicide, puis trois semaines après, ça passe dans le journal. Il va avoir aussi peint la scène où ce que Hayden Panettiere, Claire Bennett, va aller sauver un des pompiers dans un immeuble en feu, puis elle va sortir de là sans aucune brûlure. Plein d'éléments comme ça qui te dit, ouais, ce personnage-là risque d'être important parce qu'une des dernières scènes du pilote te montre une de ses peintures et la ville de New York est en guerre atomique, si on veut. Là. Ça semble être une espèce de... Ouais, c'est ça. Et tout l'épisode se passe un jour d'éclipse solaire. Donc, est-ce que c'est ésotérique ou c'est prodigineux? Je le sais pas. On n'a pas de réponse encore. Fait que c'est ça, tu sais. Puis au travers de ça, Peter Petrelli, lui, il est infirmier qui est au chevet du père de Simone. Fait qu'il y a plein de liens comme ça. Comme à un moment donné, il y a un personnage dans le taxi de Mohinder qui a l'air à connaître les antécédents puis son père. Puis il va s'avérer être le père de Claire qui arrive à la maison. Fait que énormément ça, de petits indices. Oui, c'est cool. C'est cool. Ça agit comme plein de petits indices, puis mettre des miettes, puis je pense que c'est ce qui fait la force du pilote. Ça t'accroche tout de suite, puis tu veux en avoir. Tu vas avoir des réponses à ces questions-là. Fait que c'est le bon moyen d'avoir un auditoire qui suit ta première saison de show. Globalement, c'est ça. Tu sais, je pense que je comprends pourquoi le show a fonctionné. Est-ce que tout ça vieillit bien? En connaissance de cause de la saison 2, on dirait que j'ai de la misère à me dire « OK, je rembarque dans Heroes puis je veux faire les 4 saisons. » Tu sais.
Oh non.
Et pour le bien de l'épisode, on se concentre sur les pilotes. Donc, mettons, moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent pilote de série. Tu sais. Mm-hmm. Il y a des bons personnages, il y a beaucoup de questions à répondre, mais il y a de l'action aussi. Puis il y a des scènes assez remplies de suspense où t'es en haleine et tout, et ça, il y a un bon rythme aussi, il n'y a pas de temps mort, je trouve, justement parce qu'on va jongler entre ces 6 personnages principaux-là, puis simplement par les liens qu'ils créent entre eux déjà, je pense que c'est ça qui fait la force de cet épisode-là.
Il y a beaucoup de gore aussi, là, étonnamment, pour un épisode de série télé. Là.
Ouais.
Tu sais, c'est ça, quand Ali Larter se réveille avec les deux gars morts, puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais il y a aussi l'épisode, le moment où Hayden Panettiere, elle met sa main dans l'espèce de broyeur à déchets.
Ouais.
Et on la voit.
Elle échappe sa bague dans l'évier, puis elle va le chercher dans le broyeur, puis elle ressort sa main tout croche pendant que son chien liche le sang à terre, puis qu'elle cache sa main parce qu'elle parle avec sa mère.
Mm-hmm.
C'est hot comme scène, honnêtement. Je pense que le plus gros jumpscare, pas un jumpscare, mais le punch de cette série-là, c'est quand son père arrive.
Oui.
Cette révélation-là est comme un peu... Le feeling que ça m'a donné, c'est ça glace le sang parce que déjà, la réaction de Mohinder dans son taxi quand il apprend que ce monsieur-là connaît son père, puis il fait un peu des liens, il pose la question. Tu sais, il y a beaucoup de... Je me souviens du... C'est Saresh, son nom de famille. Il dit, il y a beaucoup de Saresh par où est-ce que vous venez, mais ça serait une bonne coïncidence que ce soit ce prof d'université, blablabla, tu sais.
Mm-hmm.
Puis lui, il drop le taxi-là, il part en courant. Fait que déjà là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond avec ce personnage-là. Puis 2 scènes plus tard, il arrive à la maison, puis c'est le père de Claire.
Mm-hmm.
Puis Claire, qui vient demander à sa mère, elle est prête à entendre parler de ses vrais parents, donc elle est adoptée, tu sais. Il y a beaucoup de missing pieces dans cet épisode-là.
Oui. Ouais, ouais. Il y a plusieurs choses que j'ai notées, moi. Entre autres, premièrement, les deux frères. Là, premièrement, Milo Ventimiglia. Là, je suis allé voir pendant que tu parlais parce que j'étais là. Mais on le connaissait déjà, cet acteur-là. Mais je suis allé voir. Et oui, parce que les deux fans d'horreur qu'on est, on l'a déjà vu. On l'a vu dans... Ah, il était dans Gilmore Girls.
Quand même. Gros show,
dans Gilmore Girls, comme vraiment longtemps. C'était le fils de Rocky, comme je l'ai dit dans les derniers films. Il était dans Cursed de Wes Craven.
Oh, le Wes Craven de Loup-Garou, qui est très underrated comme film. Hein? Ça vieillit mieux que ça... Ben, tu sais, si vous aimez... Je pense que si vous proclamez fan de série B des années 80, revisitez Cursed, puis ça vieillit mieux que ce qu'on, que ce qu'on pense.
On fera ça à un moment donné.
Merci.
Puis il était dans l'excellent film, un très bon film à mes yeux, là, c'est Kiss of the Damned.
Oh my God,
vampire, oui, qui est vraiment...
Je pense que c'est 2014 ou 2013, vraiment bon
2012.
Film.
2012,
yes.
Ouais, c'est très sexy, c'est très adulte aussi comme film, je trouvais, là, puis c'est...
Un peu expérimental aussi dans sa réalisation, hein, quand même, là, je me souviens des scènes où ils sont dans le bois, puis ça... En fait, je pense que c'est des scènes de voiture, mais c'est un peu... ça vibait quasiment Lost Highway des bouts, là.
Tout est sensuel dans ce film-là. À un moment donné, tu vois la voiture qui suit une route courbe, puis t'es comme, c'est sensuel. T'sais, on dirait que tout est filmé de façon sexy. Et c'est très particulier. C'est un excellent film. Maintenant que j'en parle, je veux le revoir.
Version de vampire de Crash de Cronenberg.
Ben moi, j'avais dit la version adulte de Twilight, puis c'est pas un dig à Twilight, là, mais tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de discussions politiques et adultes entre les personnages qui sont des vampires, puis qu'est-ce qui est correct qu'on fasse, puis qu'est-ce qu'on... Tu sais, il y avait quelque chose de... C'est ça, Twilight adulte, je trouvais. Mais bref, moi, je voulais revenir sur lui parce que je l'aimais beaucoup dans cet épisode pilote, puis je me suis souvenu que j'aimais beaucoup sa chimie avec son frère. Ouais. Je trouvais que les deux frères ensemble, on y croyait, tu les regardes et tu dis « Oh oui, eux autres, ils ont grandi ensemble, là, ils ont un passé ensemble qui est vraiment important. » Puis je me disais « Ah, que j'aurais aimé ça que ce soit eux autres, les Winchester. » Mais mais c'est bon. Puis il y a un bon punch aussi là, dans l'épisode pilote. On a parlé pas mal des punchs, mais c'est que tout le long de l'épisode, j'ai oublié le nom de son personnage.
Peter.
Mais, Peter, oui, c'est ça, Peter. Il pense qu'il peut voler. Et fait que là, il saute en bas d'un building, puis finalement, il se fait sauver, mais c'est pas son frère, puis c'est son frère qui peut voler. Puis c'était un bon punch, tu sais, parce que tout le long, il était vraiment comme, parle-moi pas de ça, ça n'a pas de bon sens, ce que tu racontes, voyons, tu sais. Puis finalement, c'est lui. Moi, quand je pense à Heroes, avant de revoir l'épisode là, pour en parler avec toi, quand j'y repensais, je me disais, il me semble que c'est un X-Men, mais prétentieux. Puis quand j'ai regardé l'épisode, j'ai fait, ben, prétentieux peut-être pas, mais ça se prend beaucoup au sérieux, là, tu sais.
T'as raison.
C'est X-Men, mais... on est ancré dans la réalité, là. Tu sais, on ne fait pas des petites jokes, puis on n'a pas des petits costumes, puis il n'y a personne de bleu, là. Tu sais,
non, c'est ça. Puis c'est là où ce que je pense que Hiro Nakamura agit comme quasiment comme comic relief de par son jeu qui est très slapstick, mettons. Mais c'est vrai que, pour pas utiliser l'expression, ça se prend pas comme la merde, ce show-là.
Non, c'est ça. C'est ça. Ali Larter, je l'ai beaucoup aimée. Mon Dieu, qu'elle est belle, hein?
Ben oui.
Elle est incroyable là, dans cette série-là. Et ben c'est ça, j'ai noté, tu sais, parce que ça date de quasiment 20 ans. Il y a des choses qui ont un peu vieilli, là, je trouve, le stéréotype asiatique avec Hero. Puis le fameux stéréotype de... la mère célibataire qui est la pute au cœur d'or, là, tu sais, l'espèce de petit, la travailleuse du sexe.
Qui fait garder son gars.
C'est ça, puis qui fait garder son fils. Puis, tu sais, il y a quelque chose de beaucoup déjà vu. Il y a quelque chose de très cliché dans cette affaire-là. Puis, tu sais, je veux dire, Ali Larter élève le personnage, puis tu sais, il y a plus que ça à ce personnage-là, mais tu sais, au premier abord, là, quand tu arrives dessus dans l'épisode pilote, tu sais comment, ouais, tu sais, j'ai déjà vu ce genre de personnage-là. L'introduction de Claire, de notre Aiden Panthier, je l'ai trouvée tellement bonne, là, ça m'a rappelé, je pense que c'était quand même ça, c'est-tu à cette époque-là qu'il y avait la grosse vague de found footage?
Exactement. Mais
c'est
oui.
Ça a l'air.
On devait être rendu à Paranormal Activity, c'est quoi? C'est 2006 ou avant? C'est une bonne question. Je n'ai pas l'information, mais il me semble que ça vibe. En tout cas, tu sais, il y a eu Projet Blair en 99, on s'entend, puis par la suite, il y a eu un boom de found footage. D'ailleurs, un petit trivia, j'en ai un, par exemple. Massey O'Call, le personnage qui joue... l'acteur qui joue Hero, excusez-moi. Il a joué dans plusieurs films d'horreur, dont un found footage qui est probablement top 5 des found footage. C'est Noroi de Curse. en 2005, que j'ai revu à Fantasia l'an dernier, puis ça fonctionne encore. C'est terrifiant, ça. Et il a entre autres joué dans le remake de Death Note d'Adam Wingard, qui est vraiment pas notable. Et de Meg, le film de requin géant, avec Jason Statham, qui est encore moins notable. Ouais. Donc, ouais, mais c'était pour Noreuil de Curse, vu que tu parlais de fan footage, là, je trouvais ça le fun de mentionner. Mais oui, c'est dans ce temps-là.
Ben, en fait, j'ai regardé, puis Paranormal Activity 2007, Heroes 2006, donc c'est même avant ça, mais je trouvais que le look faisait vraiment qu'est-ce qu'on va voir au cinéma pendant les 10 prochaines années, là, tu sais.
Ouais, t'as raison.
Puis, le gars qui tient la caméra, là, je sais que je pense pas qu'il est très important dans la série, mais c'est son ami Zach, et il est joué par Thomas Dekker, qui est un acteur que j'aime bien parce qu'il a joué dans Kaboom de Greg Araki. C'est un artiste qui est vraiment, vraiment particulier, il peint, il fait de la musique. Lui aussi, là, il est multidimensionnel. Oh mon Dieu, c'est quoi le mot que je cherche? Pas dimensionnel.
Au talent ou quelque chose de même.
Ouais, c'est ça. Je suis désolé.
Faute d'un meilleur mot.
J'ai pas le vocabulaire. Mais bref, il y a plusieurs talents. Et il touche à tout. C'est un touche à tout. Et puis, il était aussi, on l'a découvert dans le rôle du petit gars méchant, mais moins méchant que les autres, dans Village of the Damned de John Carpenter.
Ouh! Hey, toute qu'une ref.
Ouais.
Ah ouais! Ouais.
C'est un gars qui a fait beaucoup d'horreur. Il a aussi fait une série, ça n'a pas bien marché, là, mais Secret Circle, qui était comme un spin-off de Vampire Diaries.
Mais, okay.
Spin-off, pas spin-off, là, c'est la même autrice, puis c'était les mêmes producteurs, mais finalement, ça n'a pas trop marché. Mais c'est ça, bref, il est beaucoup dans le monde de l'horreur et dans le monde du cinéma indépendant, puis c'est un petit gars bien cool à suivre. Je suis bien content de le voir, là. J'ai parlé de Adrian Pasdar qui joue le rôle de Nathan et qui est absolument charmant. Puis c'est ça que j'ai noté pour cet épisode-là. Les punchs, tu les as déjà dit, mais les punchs sont vraiment bons. Là, de découvrir qui est le père de Claire. Là. Ouf. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça aussi les romans chorales ou tu sais, les films chorales quand tu as vraiment plusieurs personnages qui suivent, puis là, à un moment donné, tu fais les liens. Ça, j'aime ça. C'est un procédé qui me plaît beaucoup. Puis c'est le fun que dans la série Heroes, ils n'aient pas attendu 80 épisodes avant de commencer à faire des liens. Déjà dans l'épisode pilote, on fait comme
Ben, c'est assez pour t'accrocher, tu sais. Ça va chercher son monde, là. Je pense, justement, le père de Claire, là, c'est indirectement avec ce qu'on a déjà vu dans le pilote, ça va être un personnage qui est central.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a déjà des connexions avec plusieurs des gens qui ont des super-pouvoirs, dans le fond.
Mm-hmm.
Mais on n'en sait pas assez pour voir l'étendue. Mais de la façon qu'il joue le personnage, on sait que c'est un bad guy, techniquement. Puis je dis ça, puis j'ai de souvenirs, je me souviens pas si c'est un bad guy ou finalement c'est un bon gars. Mais moi, il me donne vraiment l'impression d'être le vilain de X-Men, là, tu sais, dans
X-Men, cet épisode-là. Moi, il me rappelle, mon Dieu, c'est quoi le nom de ce personnage-là? C'est pas Deep Throat. Tu sais, dans X-Files, il y en a un qui est tout le temps dans l'ombre, là, puis il est là pour effacer.
Ah, The Cigarette Man?
Ouais.
Ouais, qui amène des informations, mais que, tu sais, on connaît pas son backstory. Ouais, là, c'est ouais. Ça. Ouais.
Il me fait penser à lui un peu. Puis on l'a pas vu dans le pilote, mais moi, c'est dans cette série-là que j'ai découvert Zachary Quinto, qui fait l'espèce de vilain principal de la première saison. Là. Puis c'est ça, je suis pas mal sûr que c'est là que je l'ai découvert. Là. Après ça, il a fait plein d'autres choses. Il a fait American Horror Stories, puis toutes sortes de trucs.
Ah, ouais.
Mais c'est ça, moi, c'était la première fois que je le voyais là.
Très cool. Puis, tu sais, aussi, le petit punch avec les peintures, puis tout ça, puis le gars qui est OD, tu sais, le lien entre Simon Isaac puis Peter Petrelli, qui sont les trois, justement, dans la même scène, à cause que Simon, elle sait pas qui appeler, puis là, lui vient, Peter vient à la rescousse de son chum, tu sais. Mais on comprend déjà dans l'épisode que Peter a un œil sur Simon. Simon est lover de... Fait que, tu sais... Il y a plusieurs connexions déjà le fun aussi par rapport oui. au côté relationnel entre les différents personnages.
Puis Peter, c'est l'infirmier du père de Simon. Fait que, il y a beaucoup de liens déjà qui sont le fun. Là.
Ouais. Que l'épisode, moi, pour moi, ça a fonctionné. Est-ce que ça me donne le goût de continuer le show? On va. Mais qu'on embarque dans Nashville, ça se pourrait qu'on comprenne pourquoi je continuerai pas Heroes tout de suite.
Ben moi, je pense pas le continuer parce que j'ai déjà regardé la première saison, je me suis tanné au cours de la saison 2, puis je le sais un peu où ça s'en va, puis j'aime pas ça où ça s'en va. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de bons dans la première saison, là. Il y a beaucoup de bonnes choses pour moi. Puis tu sais, tantôt, je l'ai comparé à Lost, parce que, tu sais, quand ça a commencé, c'était comme la nouvelle grosse série, là, gros budget, un peu à la Lost, sauf que... Ben là, c'était un peu la même chose, dans le sens que ça commence, c'est bon, puis c'est intriguant, puis à un moment donné, quand tu sais où ça s'en va, t'es comme, je suis pas sûr, j'ai le goût de le revoir, tu sais. Pour moi, c'est un peu ça, Heroes aussi, là. Je sais que c'est plein de bons moments dans la première saison, mais j'ai pas envie d'investir mon temps là-dedans, sachant où ça s'en va, puis que j'aurais pas forcément envie de finir.
Il y a tellement de trucs à écouter aussi qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Là, je veux dire, le temps n'est pas infini. On n'est pas tous des Hiro Nakamura. Puis on pourrait. Je pouvais remonter dans le temps, honnêtement, sans que ça l'efface déjà ce que j'ai déjà vu, je pense que je passerais mon temps à écouter tout ce que j'ai pas vu. Mais bon. Ça, c'est geek en tabarouette là, de dire ça. Moi, je veux passer plus de temps devant la télévision.
Tu es Hitler, ça t'intéresse pas. Regardez de la télé.
Ouais, c'est ça. Voir comment les pyramides ont été bâties. Non, moi, je veux voir la saison 12 d'X-Files. Puis pour rapper ça sur Heroes, un petit trivia que je trouve intéressant, l'auteur, lui, qui a écrit le show, au départ, voulait faire des saisons avec des personnages différents à chaque fois. Puis à cause du succès de la brochette d'acteurs de la saison 1, il a ramené tout le monde.
Ah! Oh, donc, ça explique bien des choses.
Ça a probablement influencé l'écriture. Puis on aurait peut-être eu une saison 2 plus banger s'il avait décidé d'y aller avec le format d'anthologie, puis peut-être de remanier, puis avec une nouvelle histoire, mais d'autres pouvoirs, whatever, d'autres personnages.
T'allais le dire, American DVD. Horror Story.
C'est très bon de nommer American Horror Story. Je pense que c'est ça qui fait la force du show. Là. Je sais pas si c'est là-dessus que tu t'en allais. Là, mais,
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de temps en temps, tu as un personnage du passé qui revient, puis tout ça, tu as le moyen. Tout est dans le même univers quand même.
Ouais.
Mais je trouve que, oh mon Dieu, ça aurait tellement été un bon show, Heroes, si ça avait été ça.
Puis écoute, si tu me permets, là, je veux dire, je sais qu'on a le temps un peu de parler de télé. Là. American Horror Story, c'est dans le même univers, il y a des personnages qui reviennent, puis tout est dans tout. Mais là, il y a le spin-off que j'ai commencé récemment qui s'appelle American Horror Stories. Puis dans une saison, la première saison, c'est 7 épisodes. C'est des épisodes anthologiques. Mettons, épisode 1 et 2, ça suit. Puis c'est sur un side story de la saison 1 d'American Horror Story, exemple. Fait que ça devient quand même intéressant pour les fans d'avoir plus de matériel sur d'autres histoires qu'ils connaissent déjà, tu sais. Comme mettons exemple Murder House, il y avait des fantômes dans saison 1 d'American Horror Story, ben là on voit la vie de certains de ces fantômes là, tu sais. Fait que je trouve ça le fun comme projet, à défaut d'avoir une bonne idée de continuer, ben on se dit on peut écrire puis approfondir ce qui a déjà été fait en donnant du lore pour les fans, mettons. Fait que moi j'ai quand même accroché là, fait que je ne suis pas rendu très loin, mais reste que je trouvais intéressant le concept.
Ryan Murphy prend toutes les libertés. Il me semble que on avait, tu sais, on n'avait jamais, à moins que je me trompe, là, puis je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me corriger, mais moi, je n'avais jamais vu ça, là, une série d'anthologie où c'est pas chaque épisode, son histoire, c'est chaque saison. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je trouve que c'est une idée génie. Après ça, on va en donner plus au monde. On va faire American Horror Stories. On va leur donner des petites
gâteries, là. T'es comment? T'avais-tu ça à ce moment-là? Ben, voilà deux épisodes consacrés à ce petit personnage-là que t'as vu comme 15 minutes dans telle saison, mais c'est tellement cool comme
des
idée.
Des petits bonbons. Des petits bonbons. Puis c'est ça. Puis là, après ça, il fait je vais créer une série sur les crimes américains. Puis ça s'appelle American Crime Stories. Puis c'est tout. Mais c'est tout des faits vécus. Mais c'est dans la série des American Stories. C'est vraiment pas. Tu sais, il se donne pas de limite. C'est ça que je veux dire. Il est comme moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Puis je le fais de la façon que je veux. Puis, il y a quelque chose de très, très libre et intéressant. Mais on aura l'occasion de reparler de Ryan Murphy. Là.
Clairement.
Quelque chose me dit qu'on va y revenir.
On a peut-être envie d'effleurer le sujet plus en profondeur, mais pour le moment, est-ce qu'on va à Nashville? T'es-tu prêt?
Nashville.
On a fait le tour des Heroes. Yeah!
Là, moi, je connaissais pas du tout cette série-là. Je savais qu'elle existait, là, mais je connaissais pas cette série-là. J'ai écouté le premier épisode. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça dans le genre de dynastie, mettons. Tu sais, les vieilles séries, les vieux drames, là, tu sais, Dynastie Dallas. Revenge, plus récemment, tu sais, ce genre de série-là. Puis, très glamour. Puis, j'ai vraiment été charmé par l'univers. La petite chose que j'ai envie de dire avant de commencer, moi, je vous recommande fortement, les amis, de mettre les sous-titres parce que si vous n'êtes pas né avec l'anglais comme langue première, là, l'accent du sud
c'est sudiste pas mal.
Ouf! Hey, c'est tic, là. Tu sais, c'est bien épais, là, comme accent. Là.
Ça chique le tabac, puis ça parle en même temps de main.
Il parle vite aussi, là.
Ouais.
Les dialogues sont rapides, là. Ça me rappelait justement les Gilmore Girls, là. Tu sais, ça roule, là, les dialogues. Fait que, tu sais, c'est... Ouf, c'est là. Éventuellement mon oreille va s'habituer, là, mais pour le début, j'étais content d'avoir les sous-titres.
Non, clairement.
Alors, Nashville, cette belle série-là, je suis vraiment content qu'on ait fait cet épisode-là parce que je ne serais pas venu à regarder cette série-là autrement, puis je pense que j'ai fait une belle découverte.
Exactement.
On va commencer avec Connie Britton, qui est une actrice que j'aime vraiment beaucoup, qui justement. Se donnait à 100% dans la première saison de American Horror Story. C'est une actrice que j'aime beaucoup, qui est bonne pour le drame, là, tu sais.
Mm-hmm.
Puis, elle joue le rôle de Raina James, et c'est un peu une star du country. On est à Nashville, donc on parle beaucoup de country. On est dans l'univers de la musique country.
Ouais.
Et c'est une espèce de star un peu vieillissante. Bon, c'est quand même Connie Britton. C'est pas Johnny Mitchell, là, tu sais.
C'est
quand même assez jeune, mais elle vieillit pour le milieu de la musique.
21 ans de carrière, c'est quand même long en musique, là. Mettons, surtout dans une industrie où ce que tu es habitué de te faire remplacer par plus jeune, là, je veux dire que c'est rendu un point tournant dans sa carrière, admettons.
Ouais, je comprends. Donc, c'est ça. Elle, c'est la star vieillissante. On va suivre aussi Hayden Panettiere, qui joue le rôle de Juliet Barnes. Elle, c'est la jeune starlette. C'est pas l'étoile montante, parce que ça, il y en a une, je vais la nommer tout de suite. Elle est jouée par Claire Bowen. Le nom de son personnage, c'est Scarlett O'Connor. Elle, c'est la petite fille là, qui travaille dans un bar, puis elle chante un petit peu pour le fun. Puis là, tu sais, on sent... Bon, c'est juste l'épisode pilote, mais on sent que tu sais, c'est la star montante, elle va se faire prendre, puis elle va devenir quelqu'un éventuellement, elle va rentrer dans cet univers-là. Mais c'est pas ce que Hayden Panettiere joue, elle, c'est vraiment la starlette, c'est la jeune star que les enfants aiment, qui joue à la radio, tout ça. Et en fait, le gros drame ou l'intrigue de l'épisode pilote, c'est que sa compagnie de disques va dire à Rena James, donc la plus vieille, écoute, nous autres, on veut que tu fasses la première partie de Juliet Barnes. Donc, celle qui a 21 ans de carrière devrait faire la première partie de la petite jeune. Puis moi, j'ai écrit ici, là, c'est comme demander à Stevie Nicks de faire la première partie de Tate McRae. Je m'excuse, là, je ne suis pas d'accord. Respect à Tate McRae, là, mais ce n'est pas un univers dans lequel je veux vivre, là, que tu
Non, puis
demandes.
en musique, c'est ça. Il y a des moments où ça va arriver parce que c'est pratiqué dans les maisons de disques, la production, les tournées, c'est l'argent qui mène. C'est
Ouais.
triste, mais ça l'est. Puis
Il
là,
y a des
on a
vieux de
un.
la vieille qui font des premières parties.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais,
C'est triste.
mais écoute, c'est parce que principalement, c'est si ta carrière est plus aussi lucrative là, à un moment donné, mais c'est un méchant coup dans l'ego, mettons.
Ben non, mais je comprends. Mais je pensais pas que ça. Je pensais pas que ce genre de situation-là précisément se pouvait. Mais moi, je me souviens d'une époque, il y a 20 ans, quand Cher est venue à Montréal. Je ne suis pas allé voir Cher. Mais quand elle est venue à Montréal, c'était Cyndi Lauper qui faisait sa première partie. Puis moi puis mes amis, on disait, on paierait pour le billet pour aller voir Cyndi Lauper, puis on partirait avant Cher.
Tu payes pour un headline que tu vas pas voir.
C'est ça, tu sais, mais
Ouais.
bon. Bref, mais ben là, tu m'apprends des choses sur le milieu de la musique, je t'avoue. Mais bref, c'est ça, je trouvais que c'est une situation. Mais je comprends, par contre, dans la série, tu sais, je comprenais bien l'importance de ce que ça représente. Puis, il y a aussi le fait que la petite jeune, là, Juliette Barnes, elle fait de la musique. Je ne veux pas dire niaiseuse, mais elle fait de la musique un peu manufacturé
Ouais.
pour l'équivalent pop de la musique country, alors que y a d'autres chansons qu'on va entendre, dont celle de Scarlett O'Connor, qui d'ailleurs est une excellente chanson, là.
Mais
Quand j'ai entendu
oui.
cette chanson-là, j'étais là, ah, oh, c'est trop bon. Puis c'est le genre de chanson dans laquelle tu sens la souffrance de la personne qui l'a écrit, tu sais. Puis je trouvais que ça, puis je ne sais pas là, comment est-ce qu'ils ont réussi, ben, je ne sais pas s'ils réussissent à faire ça sur les 6 saisons, mais ça, c'est un élément très difficile à faire, d'être capable d'aller faire un style de musique pour telle actrice parce que son personnage est une pop bonbon un peu. Puis, tu sais, c'est pas la chanson qu'elle chante, là, Hayden Panettiere, elle est pas mauvaise, là, mais elle est populaire, tu sais. Puis sont arrivés
Qui est
à.
son personnage,
C'est
là?
ça, sont arrivés à lui faire une toune pour son personnage. Puis après ça, ils sont virés de bord, qui n'était pas mauvaise, parce que ça aurait pu, tu sais, il aurait pu écrire genre un Friday de Rebecca Black, puis, tu sais,
Ouais.
pas se forcer, mais non, non, c'est une bonne toune, mais populaire. Puis après ça, ils sont retournés de bord, puis ont fait une très bonne toune crève-cœur. Pour l'autre, ah, c'est vraiment particulier. Puis je peux pas imaginer qu'ils ont réussi à faire ça sur 6 années. Mais puis il y a aussi, tu sais, j'imagine l'évolution des personnages. T'sais, à un moment donné, d'ailleurs, le personnage de Juliet Barnes, elle est là, elle rencontre des gens, elle admire des musiciens. On sent qu'elle a envie de faire autre chose aussi. Donc, ça c'est quelque chose qui peut peut-être se transcrire dans les chansons. Tu as dit qu'elle avait écrit des chansons pour le show. Peut-être que, tu sais, justement, on va voir l'évolution de son personnage à travers ses chansons. Mais si c'est ça, là, c'est excellent, là.
C'est ça, c'est que tu vois déjà dans ce pilote-là qu'il va avoir énormément de tu sais, c'est Nashville, ça se passe à Nashville, c'est des musiciens, oui, c'est correct. Mais il y a le bagage musical dans le show pour backer une story, une histoire qui est le fun, tu sais.
Oui.
Tu peux faire un soap, un drama show sur ce sujet-là, puis que ça soit pas représentatif musicalement de Nashville, c'est historique, là, je veux dire, c'est le berceau de la musique country, puis c'est vrai dans la série, ce qu'ils disent, que c'est là que tous les artistes naissent. Tu vas à Nashville, là, puis c'est les Main Street, c'est que des bars où des musiciens performent. Mm-hmm. Tu sais, j'en ai quelques amis qui sont allés, là, puis ça a l'air que c'est l'enfer, là, c'est que ça. Fait que je pense que pour qu'un show soit pertinent avec ce genre de trame narrative-là, il fallait que ça soit backé avec une écriture musicale qui soit autant top, tu sais.
Oui. Mais ils sont manifestement allés chercher, en tout cas pour les pilotes, sont allés chercher les bonnes personnes. Raina, elle a un père qui est riche et désagréable en politique, qu'il me semble. Interprété par Powers Booth.
Oui.
Puis je l'aime tellement. Il est tellement bien casté là-dedans.
Oh, il est badass là-dedans.
Puis, et là, on donne à Connie Brighton ce pourquoi elle est bonne. On lui donne son bonbon. Elle a une grosse chicane avec son père qui est malade. Une scène, ça mérite un prix d'interprétation. C'est fantastique. Puis, c'est ça, donc il y a des froids avec le père, tout ça. Elle veut se libérer des crochets de son père. Mais il y a une chose qui va contre elle, c'est son mari. Parce que son mari veut faire de la politique. À un moment donné, il lui dit, « Tu l'as eu, le spotlight, là, j'aimerais ça l'avoir à mon tour. » Arc!
Ouais.
Arc! Puis, il se lance en politique, en fait. Puis là, ben, elle est un peu obligée de se présenter puis d'être à ses côtés puis tout ça. Puis, je trouvais que c'était une intrigue intéressante. J'aimerais ça voir où ça s'en va parce que la musique est politique. Et quand on sait, tu sais, je veux pas faire un parallèle boiteux, là, mais... Tu sais, il y a beaucoup de questions qui se sont posées par rapport au décès de Hayden Panettiere. Elle a récemment dénoncé beaucoup de monde et parlé de beaucoup de choses qui se passaient derrière les coulisses. Et quand on sait ça aujourd'hui, puis si on regarde Nashville aujourd'hui, c'est difficile d'oublier que le monde des stars, c'est aussi Me Too, puis c'est aussi des viols, puis c'est aussi... Epstein, puis c'est aussi beaucoup de choses, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est dur d'oublier ça. Fait que moi, si tu me présentes une série sur le monde des stars, puis ton intrigue principale, c'est de la rivalité féminine entre deux chanteuses, je veux dire, ça se peut, ça arrive, mais je pense que c'est pas le plus que tu peux faire et c'est pas le plus que tu peux dire avec un sujet comme ça, mais en introduisant un mari dans la politique, je ne sais pas où ça s'en va, mais
tu
as l'occasion de faire des choses. Là, parce
avec les mains du père riche aussi. Là.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire là. T'sais. Fait que ça m'intéresse. Ça, je serais curieux de voir ça développer. J'ai parlé de la meilleure des chansons de l'épisode qui est chantée par Claire Bowen. Puis j'ai oublié de dire aussi, mais le personnage de Juliet, la jeune, qui est comme un peu bitch, un peu...
cocky.
Ouais, un peu prétentieuse. Elle va être assez désagréable là, avec le personnage de Raina. Mais on la sent aussi très séductrice. Là, elle use ses charmes sur les hommes et tout ça. Puis, il y a une chose qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a sa mère qui l'appelle. Puis là, au début... Ah non, c'est pas le bon numéro. On ne sait pas pourquoi elle évite de parler à sa mère. Éventuellement, on va découvrir que c'est une junkie, puis elle ne veut pas lui envoyer de l'argent parce qu'elle va lui envoyer de l'argent pour qu'elle se drogue. Puis, il y a deux choses que j'ai un peu moins aimées de cet épisode-là. un détail, puis une chose peut-être un petit peu plus importante. Le détail, je vais y aller avec la niaiserie, parce qu'il y a une scène où Connie Britton est avec ses... Je m'excuse, je parle du nom de l'actrice, là, mais c'est même... J'ai pas vécu 6 saisons avec encore. Mais elle est au volant de sa voiture, puis il y a ses enfants dans la voiture, et c'est une scène... avec un green screen dégueulasse, là, ça m'a sorti du show, là. J'étais comme, vous auriez pu faire cette scène-là dans une cuisine, là. Il n'y avait pas de raison pour que ce soit dans une voiture, puis c'est dégueulasse, là. Tu sais, les films de Hallmark ont des meilleures scènes de voiture, là. Fait que j'étais vraiment dégoûté de ça, puis ça jure parce que tout le reste de la série est tellement bien filmé, tu sais, puis c'est tellement beau, puis c'est... Il y a vraiment un cachet intéressant, mais cette petite scène-là... Là,
est-ce que dans ce genre de show-là, pour le pilote, ils doivent contourner certaines restrictions monétaires puis faire ce genre de truc-là un peu moche? Puis après, un coup qui ont le green flag un peu, puis que le studio, les backs, ils ont plus de moyens pour éventuellement justement remédier à cette situation-là.
Je vois ça, mais quand tu vois le résultat, je peux pas croire qu'il n'y a pas un moyen de retourner la scène dans une cuisine. Là.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Et, je veux dire, contourner pour question budgétaire, je comprends, mais si tu tournes, enlève-en encore plus, puis fais-le comme dans le décor que tu as déjà, tu sais.
Ouais, parce que, mettons, green screen, ça peut vite tourner au vinaigre, là, puis justement, comme la réaction que tu as eue, tu sais, te sortir un peu de l'ambiance du show, puis de l'immersion et tout. C'est comique parce que, mettons, moi, je n'ai pas remarqué, mais...
C'est vraiment dégueulasse, là.
C'est sûr que je vais retourner, je suis vraiment curieux.
c'est vraiment dégueu. Puis l'autre affaire qui m'a vraiment énervé, qui m'a déplu, c'est que c'est un épisode pilote, puis c'est pas tous les personnages qu'on va apprendre à connaître immédiatement, mais... Les personnages féminins, là, c'est des stars, Connie Britton, Hayden Panettiere, c'est du monde qu'on connaît. Les personnages féminins, je les situe tous. Les hommes, y en a-tu un? Y en a-tu cinq? C'est-tu tout le même? C'est-tu 5 différents? Je ne suis pas capable de les différencier. Ils ont toutes la même face. Puis je suis blanc. Je serais censé être capable de faire la distinction entre des personnes blanches, mais non. Puis, si je comprends, là, c'est Nashville. C'est tous des bruns, cowboys, machin. Mais pour moi, je n'étais pas capable de faire la distinction. À un moment donné, j'ai parlé que Hayden, le personnage de Hayden Panettiere, elle est un peu séductrice. Puis là, il y a un gars qui cogne à sa porte. Elle ouvre la porte. Elle fait « t'aurais pas dû venir ici sans pli ». Puis là, elle referme la porte sur son nez. Puis là, elle rentre. Puis il y a un autre gars. Je pensais que c'était le même gars qui avait frappé à la porte. Puis je pensais que c'était aussi le mari de Connie Britton, mais c'est pas le même. C'était vraiment mélangé, là.
Le mari de Connie Britton puis son guitariste sont un peu sur le même, même genre. Mais comme... Là, des fois, je marche sur des œufs là, parce que j'ai fait l'erreur, moi, de mon côté, là, juste pour le dire à l'auditoire. On parle du pilote, mais moi, mettons, je suis parti sans peur, puis j'ai écouté comme 6 ou 7 épisodes de Nashville. Parce que dans le peu de temps que j'avais dans la semaine, j'ai réussi à faire fitter ça, puis j'avais de la misère. Fait que là, je vais le dire, spoiler, j'aime vraiment le show, tu sais. mais c'était pas planifié que je parte là. Fait que là, mettons, j'ai de la misère à me dire cette scène-là est-tu dans le premier début du deuxième épisode, ouais, tu comprends, pour pas... Mais le guitariste principal de Raina James, ça a été aussi son amant avant. Okay. Mais je me souviens pas si ce détail-là, on le sait dans l'épisode 1.
Je pense pas que c'est dit, mais on s'en doute fort, fort.
On s'en doute, surtout avec la fin de l'épisode, je pense, qu'ils se parlent, puis tout, puis qu'il y a une discussion assez sérieuse où on se réinvente-tu, tu sais.
Même avant ça, là, dès le départ, là, quand ils chantent ensemble, les yeux dans les yeux, dans le même micro, j'ai comme,
c'est sûr.
Il s'est passé quelque chose.
Un bagage, exact.
Oui, c'est ça, il y a quelque chose entre ceux-là, là.
Mais tu sais, je me dis, cet acteur-là, puis l'acteur qui joue son mari en politique, qu'on trouve des ressemblants, je me dis, au pire, elle aime ce type d'homme-là. T'sais.
Oui, oui, sauf que visuellement, c'est compliqué quand tu essaies d'introduire. Puis en plus, on s'entend que c'est les personnages féminins là, qu'on suit dans cette série-là.
Mm-hmm.
Ben, en tout cas, dans l'épisode pilote, c'est vraiment les femmes. C'est les trois femmes qu'on suit dans cette série-là. Puis. Donc, les hommes servent un peu de décor aux femmes. Puis là, c'est en plus, ils sont dans le décor, puis ils se ressemblent toutes. Puis tu sais, moi, je pensais que... Là, tu m'as dit que c'était son guitariste. Puis je me souviens qu'il y avait son guitariste, mais je pensais qu'il y avait aussi son agent. Mais ça, je dois me tromper avec son
mais
guitariste.
Il y a son agent, mais son agent, il est typiquement agent musical, mais comme... Ouais. Il joue à titre d'agent pour l'instant. Là, mm-hmm. Et son guitariste, par exemple, il a vraiment un bon backstory avec Reyna. Là, puis ça se développe.
Puis il y a le chum aussi de l'autre, là, de Skyler.
Ouais.
Dans Heroes.
Ou dans Heroes aussi, ouais, c'est ça. Colin, mais, tout mêlé. son chum, lui, il profil un peu plus, cheveux longs, musicien, écrivain, bohème, un peu.
Ah, mais c'est avec lui qu'accouche l'autre, non?
Ben, sa toune qui est super, son poème qu'elle va...
Juliette, tu sais, quand elle ferme la porte sur le nez du gars, puis elle rentre, puis un autre gars, c'est pas lui?
Mais là, excuse-moi, je parlais de celle qui travaille au bar, par exemple.
Non, non, c'est ça. Elle, son chum. Oui. C'est pas lui qui couche avec Hayden Panettiere plus tard?
Non.
Non? OK. Bon, écoute, regarde, ils se ressemblent trop, les gars. Ils sont trop tous pareils.
Non, mais ça, elle qui travaille au bar, elle sort avec le gars qui se produit avec son band au bar, dans le fond, le gars avec les cheveux longs. Là.
Oui, 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 mais je pensais que... En tout cas, je pensais qu'il y avait eu une liaison avec Hayden Panettiere. Puis...
Mm-hmm.
OK, mais... c'est bon.
Mais c'est ça, c'est parce que dans cet épisode-là, ils se rencontrent tous à un moment donné parce qu'éventuellement, tu sais, Juliette Barnes est là pour serrer des mains parce qu'ils veulent créer des relations parce qu'ils vont éventuellement vouloir merger leur tournée, tu sais, c'est ça. Fait que là, éventuellement, ils veulent se présenter ensemble pour qu'il y ait des relations d'affaires qui se créent puis il y a d'autres musiciens au travers. Fait que là, ça devient un peu mêlant quand même, tu sais, au début parce qu'il y a beaucoup de personnages introduits, mais peu de backstory encore, tu sais.
Non, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, mais les personnages féminins, forts, intéressants, envie de les suivre absolument. Mais c'est ça. Ah, c'est juste les hommes, là.
Hayden Panettiere, là, son acting, là.
Ah, quelle
c'est
bonne, là.
Top, là, quand même, dans cet épisode-là, là. Elle est bonne dans ce show-là, là, tu sais. Puis elle était bonne dans Heroes, mais ça n'a rien à voir avec le jeu qu'elle a dans Nashville. Puis son personnage qui a bien plus de layers aussi.
J'ai oublié de le noter, mais tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ça que je voulais dire. On voit les années d'expérience et de travail qu'il y a entre les deux, là, parce qu'elle est forte là, dans ce show-là. Là,
définitivement.
Il y a beaucoup de nuances. J'ai dit qu'elle était un petit peu bitch au début, là, mais il y a beaucoup de nuances à ce personnage-là. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis, oui, elle est désagréable. Puis, tu sais, c'est ça, ça lui arrive d'être désagréable. Puis, elle vit beaucoup de stress. Puis, tout ça. Puis, peut-être qu'on va davantage comprendre tout ce qui la stresse dans la vie. Là, mais on sent les couches là, de ce personnage-là. Là, c'est vraiment...
Ouais, c'est ça. C'est un personnage qui est comme qui semble d'emblée comment est-ce que je vais m'attacher à comme ce côté bitch-là, puis comme prompt, puis tu sais, égocentrique, très centré sur sa célébrité. Mm-hmm. Puis au fil que l'épisode avance, tu sens comme que c'est une façade puis que ça cache totalement une autre personne, tu sais. Puis là, ça va être de découvrir cette personne-là tranquillement. Mais au début, je me disais, je vais-tu être capable d'endurer, mettons, Juliette, tu sais, le personnage de Juliette Barnes, la chanteuse, là.
Ouais.
Puis au final, non, il y a bien plus de nuances que je pensais, même 30 minutes après le début de l'épisode, tu sais.
Mais oui, absolument. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça qui me rappelle un peu, tu sais, les vieilles séries dont je parlais, là, les Dynasties, Dallas, tout ça, c'est ces personnages-là, bitch, qu'on apprécie, tu sais, qu'on aime suivre, même si c'est des divas, puis c'est des gens qui sont... Des gens qu'on supporterait pas dans la vraie vie, là, mais on aime les suivre parce que elles sont ce qu'on n'ose pas être, peut-être, des fois. Ou, tu sais, elles ont ce qu'on voudrait avoir. Ou, tu sais, il y a tout un aspect fantasme là, dans ces séries-là. Là. C'est tout le temps du monde riche, puis c'est tout le temps...
Ouais.
Fait que, c'est ça.
Des fois, même des répliques où tu te dis « Ah, si j'avais eu le gosse de dire ça, mais ces personnages-là, ils n'ont pas la langue dans leur poche. »
Non, ben non!
C'est des dialogues, et on leur fait dire qu'est-ce qu'on veut, mais tu sais, c'est quand même... Tu sais, des fois, on va se surprendre à comme envier le côté prompt de ces personnages-là, comme « Ah, j'aurais aimé ça, répondre ça à un moment donné à telle situation dans ma vie », mais ça te montre où c'est que ça peut aller un coup que les gens... tu sais, des fois, ta réplique que tu aurais aimé dire, mais ça t'aurait peut-être amené dans une situation où tu n'aurais pas voulu te retrouver par la suite, là, tu sais.
C'est vrai.
Sinon, écoute, musicalement, le numéro avec la barmaid, je reviens là-dessus, là, mais que tu t'avais dit le meilleur numéro musical,
oh,
là,
c'est
son
bon,
poème, là, c'est... Il y a une sensibilité émotionnelle dans ce morceau musical-là là, qui... C'est rare des moments de même dans des téléséries, puis moi, ça me... Tu sais, oui, ça vient te chercher, mais ça transcende l'écran, là. Tu sais, t'es comme... t'es ailleurs un peu, là. Puis ça te permet de te poser des questions, à savoir c'est qui vraiment la star, là. C'est-tu, mettons, Renny James qui est sur le déclin? C'est-tu Juliette Barnes qui est la pop star, mais qui n'a pas nécessairement l'air d'aimer ce qu'elle fait? Ou c'est la petite barmaid qui, finalement, comme... un talent caché, tu sais. Fait que l'espèce de triptyque qui est vraiment le fun à suivre, là.
Oui. Excellent. Puis c'est encore bon après cet épisode, là.
Ouais, c'est ça l'affaire, oui. Ouais. Sur la programmation principale, on écoute un épisode, on enregistre, puis on se spoile pas la suite du show pour rester dedans. Puis là, on voulait juste parler des pilotes, tu sais, comme dans cet épisode spécial-là. Fait que je me disais oui, mais je continue dessus, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis j'aime beaucoup la musique, puis tout. Puis, tu sais, j'ai pas pu m'arrêter. Fait que c'est bon signe. Donc, c'est une recommandation, Nashville, rendu là, tu sais. Puis, je suis pas convaincu que... Pour les. Ben, tu sais, ça dépend en même temps. Je veux dire, ni toi ni moi connaissais le show avant, mais sans vouloir généraliser, je pense que les gens connaissent plus Heroes que Nashville. Puis là, peut-être que je me trompe, puis écrivez-nous-les. Nashville, c'est la vie. Ben, c'est correct. On a six saisons pour le découvrir, tu sais.
Si vous êtes fan, laissez-nous savoir. On veut savoir si ça vaut la peine de continuer.
Ouais, mais c'est super intéressant quand vous laissez des commentaires et tout, puis on aime ça vous lire. Est-ce que ça fait un petit wrap-up pour cet épisode spécial Hayden Panettiere?
Yes!
Vraiment très agréable. Écoute, c'est toujours le fun et j'espère que pour les auditeurs, vous aimez aussi. C'est tombé comme un cheveu sur la soupe que l'épisode spécial numéro 1 soit notre deuxième épisode, mais écoute,
c'était pas prévu, c'est vrai. Je veux dire que c'était pas... c'est ça, on l'avait pas prévu de même. C'est sûr qu'on a eu la nouvelle la semaine dernière puis on avait envie de souligner ça à notre façon à nous, puis on avait commencé à lancer le show, donc
On a mis ça au programme.
On est là. On a une voix maintenant, puis notre show est commencé. Fait qu'on on pouvait en profiter puis faire ce spécial-là. Mais puis je suis content qu'on l'ait fait parce qu'on a découvert Nashville.
Exactement. Puis je tenais à dire aussi avant de terminer que, tu sais, on s'est dit qu'on n'avait pas vraiment de règles à part entière sur les choix de ce qu'on allait faire comme matériel. T'sais. Fait que si ce genre de situation-là, on ne souhaite pas, là, je veux dire, des décès tragiques trop tôt comme ça, là, mais peu importe s'il y a...
Ça peut être des bonnes nouvelles aussi. Là.
C'est ça, effectivement.
Ça peut être le grand retour de Rick Moranis dans Spaceballs 2, puis on a envie de
On a envie d'en parler, c'est ça. Mais toutes ces situations-là sont bonnes, justement, pour nous donner un motif pour enregistrer puis avoir du plaisir, parce que Sylvain et moi, on aime ça, parler et discuter de culture, donc on se met pas de règles ni de barrières. Et les épisodes spéciaux sont là pour ça. Sinon, ben, on va être de retour lundi matin pour notre programmation principale, là, c'est-à-dire One Tree Hill rencontre Place Melrose. Donc, à lundi, parce que les lundis sont des bitches.